טוב, ערב טוב. Bezat Hashem, aujourd'hui nous allons continuer notre développement concernant la Shekhina. La plupart d'entre nous pensent que la Shekhina c'est le nom de quelqu'un, de quelque chose. On appelle ça en français la présence divine. En réalité, c'est une fausse traduction. La Shekhina est un verbe. Comme Ritza, qui veut dire la course. Comme Shira, qui veut dire le chant. Comme Nehiga, qui veut dire la conduite. Eh bien, Shekhina veut dire, en fait, l'acte qui rapproche le divin de l'homme. Pourquoi je parle de la Shekhina? Tout simplement parce que le Mishkan que nous sommes en train de construire dans les parachotes que nous lisons Shabbat, eh bien, le sujet principal, c'est la Shekhina. C'est-à-dire l'action divine qui rapproche l'infini du fini. Question 5. Pourquoi faut-il rapprocher l'infini du fini? Est-ce que l'infini est loin du fini? Réponse. L'infini s'est rétracté au moment de la création. La création du monde oblige, entre guillemets, une contraction. Quand je parle d'une contraction, je mesure mes mots. C'est une action qui est contre. Une contraction. C'est-à-dire, la nature divine, c'est de s'épancher. Donc l'infini, béni soit-il, donne dans sa qualité intrinsèque. Ce qui se passe au moment de la création du monde, c'est un arrêt. C'est ce qu'on appelle en hébreu un tzimtzum. C'est-à-dire une contre-action. Et cette contre-action fait en sorte qu'à un certain degré, l'infini ne se dévoile plus pleinement. Il se cache pour justement créer un vide de l'infini. Et dans ce vide de l'infini, l'infini va revenir, mais pas d'une manière qui couvre tout cet espace. D'une manière très fine, très délicate, l'infini va revenir dans le fini par un faisceau qui va nourrir, qui va faire vivre tout cet espace créé. Car s'il revenait de toute sa puissance, eh bien cet espace redeviendrait l'infini. Donc tout a été annulé. Ce n'est pas le but. Le but de l'infini, c'est de créer un vide pour que dans ce vide soient toutes les créations. Tout ce que nous pouvons voir et ne pas voir, tout notre monde, toutes nos galaxies, tous nos systèmes solaires, se trouvent dans cet espace. Et cet espace, c'est pas l'infini. C'est le vide créé par l'infini. Autour de cet espace, l'infini continue son infinité. Alors imaginez-vous, déjà cet espace pour nous il est infini, mais ce n'est pas encore l'infini. Et dans cet espace qui pour nous est fini, l'infini réinjecte sa lumière par injection, c'est-à-dire par une mesure exacte qui va nourrir le monde par un filet de lumière très fin. Et grâce à ce retour de l'infini dans le fini, eh bien nous vivons. Nous vivons tous de ce retour-là. Ce retour s'appelle la Teshuvah de Dieu. Donc Dieu fait Teshuvah. Dieu fait son retour à l'endroit du vide. Et il pénètre cet espace pour lui donner la vie dans tous les sens du terme. plus nous sommes proches du filet de lumière qui descend, plus nous sommes nous-mêmes imprégnés de cette valeur de l'infini. Plus nous nous éloignons, il ne s'agit pas ici au niveau de l'espace, il n'y a pas où s'éloigner, mais au niveau de notre qualité intérieure. Plus mes qualités internes sont proches des qualités de cet infini, plus je suis collé à lui. Plus je vis différemment de ses valeurs, plus je suis loin de lui. Eh bien, ce retour de l'infini dans ce vide, qui ressemble, si on devait lui donner une forme géométrique dans ce monde, c'est un ballon. Donc dans ce vide, il y a un faisceau de lumière, et ce faisceau de lumière se répand à l'intérieur de ce ballon. Et nous sommes à l'intérieur de ce ballon, le point central dans le vide du vide. Se trouve la planète Terre. Et au centre de cette planète Terre se trouve la Terre d'Israël. Et au centre de la Terre d'Israël se trouve Yerushalayim. Ça se mesure, hein? Et au centre de Yerushalayim, vous avez le Harabait. Et au centre de Harabait, je ne parle pas du temple, de Harabait, se trouve le Kodesh HaKodashim. Ce qui fait que si vous mettez une épingle sur Kodesh HaKodashim, vous êtes au centre de l'univers. Et les sages dans la Kabbalah nous disent que c'est par ce lieu bien précis que l'infini revient dans le fini. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce monde, que ce soit la vie, que ce soit l'abondance, que ce soit la joie, que ce soit tout ce que vous imaginez, bien tout passe par ce point. C'est ce point qui fait le mariage entre l'infini et le fini. Donc plus nous sommes proches de cet endroit, pas seulement physiquement, mais aussi dans nos valeurs, plus nous sommes dans le lien. Le lien se dit en hébreu kirva et bracha. Bracha ne veut pas dire une bénédiction, mais une liaison. En hébreu, c'est un verbe lehavrich. C'est-à-dire que quand je dis à Kadosh Baruch Hu, Baruch Ata, je ne lui dis pas béni sois-tu. Je ne peux pas le bénir, ça ne veut rien dire. Mais Baruch Ata, tu es relié à moi. Je me relie à toi. Donc cette bénédiction, c'est d'autant plus que je suis proche de ce faisceau de lumière, donc de ce lieu, donc de cet état d'esprit. Dans le langage de nos sages, kol hakarov la aret mukdam la bracha. Quiconque est proche de la terre d'Israël, dans tout ce qu'elle veut dire, il est relié en premier. C'est-à-dire, dans notre langage courant, la bénédiction est beaucoup plus grande pour ceux qui sont proches de la terre d'Israël et de ses valeurs. À tel point que dans la halakha, je dois bénir en premier les aliments qui sont de la terre d'Israël. Et donc, moi aussi, en tant qu'être humain, si je suis proche de cette terre dans mon développement psychique, moral, eh bien, je suis béni en premier. Car en réalité, je suis proche de cette valeur. Tout ceci, c'est ce faisceau-là qui s'appelle la Shekhina. Donc la Shekhina, c'est la proximité. Et maintenant, on va passer au texte pour introduire ce degré. La Shekhina, hi Shma shel peulat hakirva ha'elohit el ha'adam. Donc la Shekhina, c'est le nom de l'action du rapprochement de Dieu par rapport à l'homme. Medubar bechelek hanukvi hameyuchas el hagilui batachtonim. Donc il s'agit d'une parcelle féminine de l'infini. Car seulement le féminin a pour capacité de dévoiler quelque chose. Vous connaissez ce secret. Tout dans ce monde a été créé masculin, féminin, le masculin comme étant le potentiel de la chose, et le féminin comme étant la révélation de la chose, la mise en relief de la chose. L'exemple le plus clair, c'est la lettre Yud, qui est en réalité le point essentiel de tout. C'est-à-dire le début de tout. Mais dans ce point, je ne peux rien voir encore. Car même en géométrie, quelle forme je peux dessiner avec un point ? Tout ce que je veux. Donc je ne suis pas encore limité. Le point, c'est le début de tout. À partir du moment où le point va avoir une longueur, une largeur, une hauteur, une profondeur, mais ce sera déjà limité, mais ce sera sa partie féminine. Alors si je veux développer le Yud, je l'écris. Yud, Vav, Dalet. Vous êtes d'accord que je n'ai rien à rajouter. J'ai juste écrit Yud. D'ailleurs, la valeur numérique de ce Yud étant l'entité 10, eh bien, le Vav c'est 6 et le Dalet c'est 4. Donc j'ai rien perdu, je suis toujours dans le 10. Le Yud qui se développe dit à la lettre Vav, ne reste pas ici, rentre à l'intérieur. Et donc en réalité, j'ai écrit la lettre He, qui est la deuxième lettre du nom d'Hachem. Et qu'est-ce que je viens d'écrire ? Eh bien, je viens de donner en fait à cet infini une longueur, une hauteur et un point dans l'espace. Donc moralité, comme en mathématiques j'ai un x des y, un x des x, un degré d'x et de y et un point dans l'espace. C'est comme ça que je mesure. Pour vous le dessiner plus facilement, je viens de construire un volume. Donc à partir d'un point, j'ai construit un volume. Donc ce volume est forcément féminin. Alors que le point était masculin dans son entité. Donc la femme met en volume, en relief, ce qui se trouve en potentiel chez l'homme. Maintenant, ce n'est pas que l'homme et la femme. Tous les éléments de ce monde fonctionnent de la même façon. Ma pensée est masculine, et ma bouche est féminine, c'est pour ça que j'arrive à donner un relief à ma pensée. Plus mon relief est clair, plus vous comprenez. Donc j'essaie de faire en sorte que ma femme bouche soit belle. Je dois surveiller ma femme bouche. Je dois surveiller la manière dont elle a de s'habiller et d'habiller ma pensée. D'où l'importance de vêtir les éléments pour les dévoiler dans ce monde. Tout élément dans ce monde qui n'est pas habillé, n'est pas dévoilé. Une âme, c'est un potentiel. Si elle n'a pas un vêtement qui s'appelle le corps, eh bien elle erre dans l'espace, mais elle n'est pas visible. Une idée qui n'est pas aboutie, donc qui ne se verbalise pas, ne sert à rien. Donc le côté masculin a forcément besoin d'un côté féminin. Et c'est seulement entre les deux que la volonté de l'infini se dévoile. C'est la relation d'ailleurs qui unit un maître à son élève. Le maître est masculin et son élève est féminin. Donc il y a un rapport entre eux, même au moment de l'étude. Et entre les deux se dévoile la force divine de l'infini. Donc la Shekhina, elle porte bien son nom, elle est féminine. On aurait pu l'appeler Shachen, mais non. Shekhina, c'est une femme. Donc c'est le côté féminin de l'infini. Vénishmant Israël, et là la nouveauté, toutes les âmes que nous sommes, les Neshamot du peuple d'Israël, Hen Atzman, Anfei Hashrina. Nous sommes les branches de cette Shrina. Parce que ce n'est pas un élément virtuel. C'est quoi la Shrina, la présence divine? C'est des beaux mots, des beaux termes, mais ça veut rien dire. Mais c'est tout simplement nos Neshamot à nous. Nous sommes en réalité les branches de cette femme, de cette féminité du divin. C'est ça Knesset Israël. Knesset Israël, c'est cette féminité. Et nous, en tant qu'individus, nous sommes des rayons de cette belle femme. Moralité, pourquoi nous avons été créés? Maintenant, vous le comprenez. Nous sommes la partie féminine de Dieu. Donc, le peuple d'Israël, quel est son rôle dans l'histoire humaine? De révéler l'homme. Ici, c'est un homme infini. L'infini, béni soit-il. Et donc, l'assemblée d'Israël, sa peuple, s'appelle l'épouse de Dieu. Knesset Israël, bat zugo, shel HaKadosh Baruch Hu. Moralité, quand nous jouons notre rôle au niveau individuel maintenant, parce que nous sommes des rayons, chacun de nous, eh bien chacun de nous, s'il joue le rôle de cette femme collective, c'est un tzaddik. S'il se retire de cette femme collective et qu'il a l'impression qu'il est un être à part entière, donc il sort du jeu, il est sorti du klal, eh bien il s'appelle Racha. C'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, on l'appelle le Racha. Les fiches aussi est à ce moment mina klal, kafar baika. Il a renié l'essence. Moralité, nous sommes les vecteurs du dévoilement de Dieu sur terre. Un rôle très important et pas facile. Les Torah Gilui Erkei Hashamayim al Haaretz. Donc c'est avec nous qu'Akadosh Baruch Hu fait son travail. Il nous a créés simplement pour cela. Am zu yatarti li rak le davar echad. Je les ai créés pour faire une seule chose dans ce monde, pour qu'ils racontent mes valeurs. Donc nous sommes les porte-paroles, le chauffard de l'infini. C'est énorme comme travail. Vehine. Maintenant, pour choisir ce chauffard, il va falloir le sortir d'un mélange humain. Ce mélange humain, il était en Égypte. À partir de ce mélange de population, il va falloir prendre juste l'élément qui est porteur de cette lumière. Donc il va falloir faire un tri. Donc Akadosh Baruch Hu fait un tri pour dire au monde entier, ce sont eux et ce ne sont pas les autres. Parce que les autres se disent, mais pourquoi pas nous ? Chacun veut être le premier-né de Dieu. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire le premier-né. C'est-à-dire celui qui va être le porteur du message. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, non, il n'y a qu'un seul premier-né. L'imitateur doit mourir. Attention, c'est un jeu dangereux. Pourquoi il doit mourir? Pas parce que je le punis d'avoir voulu jouer le rôle du premier-né. Tout simplement parce qu'il joue avec une lumière qui est trop forte pour lui. Donc il va mourir naturellement, parce qu'il a touché Chevrat Hashmal. Donc à Kadosh Baruch Hu, comment est-ce qu'il tue les premiers-nés d'Égypte? Ben, tout simplement en dévoilant sa lumière. Donc celui qui n'est pas capable de prendre cette lumière et de la véhiculer, il va exploser. Donc tous les premiers-nés meurent. Parce que c'est eux qui ont dit, en réalité, nous sommes les porteurs du message, comme les premiers-nés dans le peuple d'Israël. Moi, je suis premier-né dans ma famille. Ma maman m'a accouché en premier. Quel est mon rôle? Je suis Cohen. Même si je ne m'appelle pas Cohen, je suis Cohen parce que je suis le premier-né. Lorsque le troisième temple sera reconstruit, je vais travailler au Beth Amikdash. Donc vous allez m'appeler Cohen. Parce que le travail au Beth Amikdash se fait par les premiers-nés. Qu'est-ce que c'est les premiers-nés? C'est l'essence de la chose. Qui fait qui? Est-ce que c'est le papa qui fait son fils ou c'est le fils qui fait papa? C'est le fils qui fait papa. Car avant le fils, papa n'était pas papa, il était un homme. Il est devenu papa grâce à son premier-né. Donc le premier-né, c'est celui qui fait en sorte que Dieu soit le Père. Donc c'est Israël. Donc grâce à Israël, il y a elle. Et d'ailleurs Dieu le dit lui-même. Atem edai va'ani el. Car vous êtes mes témoins, je suis Dieu. Autrement dit, si vous n'étiez pas les témoins de mon être infini, je ne suis pas Dieu. Donc Dieu, c'est pas un état qui se trouve là-bas dans le ciel. C'est la vie. La vie ne peut pas se dévoiler sur terre s'il n'y a pas Israël. C'est ça que ça veut dire. Donc nous sommes les détenteurs des clés de la vie. La preuve, c'est que si on n'avait pas reçu le message de Dieu au Mont Sinaï, Dieu a dit à toute la création de redevenir Tohu Bohu. C'est-à-dire on annule rétroactivement toute la création. Moralité, toute la création continue d'être ce qu'elle est et d'évoluer parce qu'Israël a bien voulu recevoir la Torah. Donc nous sommes le vecteur de la vie. Les gens ne comprennent pas cela. Et on n'a pas quelqu'un chez nous aujourd'hui qui est capable de parler un langage simple à l'ONU pour dire aux nations du monde, vous ne vivez que grâce à nous. Parce que ça fait présomptueux. Mais en réalité, c'est faux. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, nous a choisi et nous a créé à cette fin. Si on arrivait à expliquer cela clairement, eh bien les nations du monde nous aideraient même à reconstruire le troisième temple parce que c'est pour leur intérêt. Seulement les gens ne comprennent rien. À commencer par nous-mêmes. Donc les premiers cours, c'est entre nous. Veine, achar birouro shel am Israël mitoch klipat Mitzrayim. Donc il fallait faire un tri. L'Égypte représentant une écorce qui cache un fruit. Eh bien, le langage des kabbalistes, c'est ça. À chaque fois qu'il y a une écorce, il faut l'éplucher. Sinon, je ne peux pas toucher le fruit. Le fruit, c'est Israël. L'écorce, c'est l'Égypte. Donc, je dois éplucher l'écorce pour découvrir Israël. C'est ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Dieu épluche l'écorce et il prend le fruit. Donc, il sort l'Égypte. Goy mikerev goy. Un peuple de l'intérieur du ventre d'un autre peuple. Comme une césarienne. Dieu rentre sa main dans la matrice égyptienne et il fait sortir le bébé Israël. C'est là-bas que nous sommes nés. Nitnou lo akriterionim, une fois que tu es né. D'accord? Mais la maman et le papa ne se suffisent pas d'apporter dans ce monde, d'amener dans ce monde une nouvelle neshama, un nouvel être. Il va falloir l'éduquer. Donc l'éducation se fait 50 jours après notre naissance. C'est le don de la Torah. Donc, au moment du don de la Torah au Mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte, bien l'infini qui nous a choisis, qui nous a triés, il va nous donner le message pour lequel nous avons été créés. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire aux nations du monde? On ne sait pas nous-mêmes le message. Alors il va nous le porter. Et il va nous dire, voilà ce que vous allez émettre au monde. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce message? Tous les critères avec lesquels vous allez devoir conduire l'humanité. Ils sont tous marqués dans la Torah. Il n'y a rien d'autre à chercher. Nitnou lo akriterionim ha'elyonim le'anhagat ha'olam. Donc c'est avec ça que vous allez conduire le monde. Bidmut ha-Torah mi-Sinaï. Donc la Torah a été donnée d'un degré qui s'appelle Sinaï. J'ai bien dit un degré, je n'ai pas dit un lieu. Moshe kibel Torah mi-Sinaï velo be-Sinaï. Donc il a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle Sinaï. Et ce degré qui s'appelle Sinaï contient en lui toutes ses valeurs. Otam arachim she'al piyem amour Israël Am Israël Ovil et Aenoshut Kula El Tikuna. Et c'est avec ces valeurs-là, qui sont à l'intérieur de cette Torah, de ce message de l'infini, vous comprenez un petit peu ce qu'on est en train de dire? Parce que moi je dis des choses, et je m'étonne même de ce que je suis en train de dire. L'infini nous a donné un message. Est-ce qu'une nation peut dire quelque chose de pareil? Il n'y a qu'Israël qui a reçu le message de l'infini, c'est incroyable! Ça n'existe pas, ça. Allez, réfléchissez 5 secondes, ça veut dire qu'en réalité, la première fois que l'infini s'adresse à ce monde, c'est à travers Israël. C'est énorme. Et c'est ça qui va arranger le monde. Arranger dans le sens complété. C'est ce qu'on appelle un tikkun. Tikkun, c'est-à-dire une lumière dans un ustensile qui la contient. Comme une neshama dans un corps. Ça s'appelle tikkun. D'ailleurs, ça s'appelle tinok. C'est les mêmes lettres. Un bébé, c'est un tikkun. C'est une neshama qui rentre dans un corps. Donc, nous sommes tous des tikkunim. Hashlav Hashlishi, la troisième étape, betal batalir, dans cette évolution, hu akamat hamishkan. On y arrive. Troisième étape, une fois qu'on a reçu le message, les critères de l'infini, eh bien on doit ériger un Mishkan. Pourquoi faire? Pour que les choses restent dans notre monde. Parce que le don de la Torah, c'était ponctuel. C'était péamique. Vous connaissez le magasin?
Oui.
Vous achetez, vous mangez dans une assiette, vous la mettez à la poubelle. C'est une fois. Mais la Torah, c'est pas ça. La Torah, elle doit rester dans ma vie, avec moi. Donc j'ai besoin d'un élément dans ce monde, parce que je suis humain, j'ai besoin de palper, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin d'un lieu, d'un environnement, eh bien qui portera la même valeur que la Torah, mais d'une manière constante. Voilà le Mishkan. Donc c'est un degré qui nous accompagne tout au long de notre vie lorsque nous sommes normaux. J'ai rajouté une couche. Si on n'est pas normaux, cet élément disparaît. Si nous redevenons normaux, cet élément réapparaît. Et ceux qui ne languissent pas le temple veulent rester anormaux. En réalité, c'est ça. Alors ils vont au Kotel. Ils ont l'impression que ça suffit. J'irai bien faire un tour du Kotel de chez soi. Retrouver mon premier amour. Donc, Ashlav Ashlishi, c'est Akamata Mishkan, Veiniano. Et quel est le sens dans du Mishkan? Lehan Tsiach. Rendre éternel et Azrima Ha'eloït, l'écoulement de l'infini, Bamesiout dans l'existence. J'ai besoin d'un écoulement non-stop. Aparjiot apotrot banotse, benotse amishkan. Et donc, les parashiot qui ouvrent ce sujet concernant le Mishkan, c'est Teruma Tetsavé. Pourquoi deux? Eh bien, nous sommes encore une fois devant un couple. Teruma est le masculin, Tetsavé le féminin. Puisque la Torah vient, elle aussi, en couple. À chaque fois qu'il y a une paracha, il y a une autre paracha collée à elle, qui va dévoiler la paracha d'avant. Rappelez-vous, Yitro, Mishpatim. Yitro, je reçois la Torah, Mishpatim, je rentre dans les détails, dans les lois. Eh bien, la même chose dans le Mishkan. Deux parachiotes qui vont nous ouvrir la clé au Mishkan. Cependant, entre ces deux parachiotes, il y a un monde. Vous savez bien que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Eh bien, il y a la même différence entre les deux parachiotes. Il y a une qui est martienne et l'autre qui est vénusienne. les machal, et je vais donner un exemple. Beot Shebe Parasha Teruma, la première parasha, celle qui a parlé en premier du temple, Hivlita Torah Dmuto Shel Moshe, qui apparaît? L'homme Moshe, l'identité de Moshe. Moshe Rabbeinu, Mibli Leazkir et Tshutafo Aharon, et vous n'allez trouver nulle part le nom de Aharon. Incroyable dans la parasha de Teruma. Même pas une fois, il n'apparaît pas. Eh bien, dans la parasha de Tetzaveh, c'est l'inverse. Be parasha Tetzaveh, mavlita Torah et dmuto shel Aharon, hakohen dafka, ve ma'alima et dmuto shel Moshe. Tu ne trouveras pas Moshe dans la deuxième parasha. Tu trouveras que Aharon. Incroyable. Nimsaim anu, ce qui fait que nous sommes face à quoi? Shtei prinot shel Mishkan echad. Deux formes d'un seul temple. C'est-à-dire, dans le temple, il y a deux formes. Une forme masculine qui appartient à Moshe et une forme féminine qui appartient à Aharon. Mais c'est toujours un seul et même temple. Mais il faut être intelligent et voir les deux. C'est-à-dire comme un bébé. Qu'est-ce que tu vois dans le bébé? Papa et maman. Et bien c'est la même chose, il y a un seul temple et pourtant, il est composé de Moshe masculin et de Aharon féminin. Mishkan Moshe et Mishkan Aharon. Alors qu'est-ce que c'est que ce Mishkan de Moshe? Eh bien c'est un enseignement, c'est une lumière différente. Donc on peut l'appeler aussi Torah. Car Torah veut dire lumière. D'accord? Oraita. Betorat Moshe uba Mishkan Ashayachlo. Donc je commence par le premier. Dans le Mishkan de Moshe, qui en réalité sa Torah aussi. Pona Torah et la Adam a ideali. La Torah s'adresse à qui en fait? À l'homme idéal. Kefiche ube shorsho, comme il est dans sa nature la plus naturelle, c'est-à-dire dans son degré le plus enraciné dans l'infini. Dans son essence la plus divine. Est-ce que vous avez un degré comme ça dans vos corps? C'est quoi? La Neshama. Votre Neshama, elle est tout le temps fidèle à sa source. Vous le dites tous les matins. Elohai, Neshama shenatatabi, tehora. Donc il y a un autre qui fait des embêtements, c'est quoi? La partie superficielle, extérieure, j'ai pas dit qu'elle est moins importante, mais elle fait des problèmes. Et pourquoi elle fait des problèmes? Pourquoi elle n'est pas fidèle à la partie première? Mais parce qu'il y a un monde entre les deux. C'est énorme ce qu'il y a entre la Neshama et le corps, encore plus qu'entre Mars et Vénus. Et donc, pour que le corps marche selon les critères de la Neshama, il faut se lever très tôt. Et dormir très tard. Rares sont ceux dont le corps est fidèle à l'âme. Donc, ça c'est le premier degré, la Neshama. Donc dans le mot Neshama, vous avez Moshe. Qu'est-ce que c'est Moshe? C'est les lettres de Neshama. Ou alors Moshe Nun. C'est-à-dire Moshe vient du degré qui s'appelle Nun. Le poisson. Nous, se dit en araméen, un poisson. C'est comme ça qu'on dit un poisson. Chez les Arabes, c'est un boisson. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, le Noun, c'est le degré ultime de l'homme. C'est le degré duquel nous venons. Nous venons tous d'un Noun. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il faut repartir. Où est-ce que Moshe termine sa vie? Au mont Nun Bo. Nebo. Nun Bo. Le Nun est en lui. C'est pas Har Nebo. Ou Har Nabo. Donc en réalité, le Nun, c'est les 50e porte, celles qui nous ont permis, d'ailleurs, de recevoir la Torah. Entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, il s'est passé 50 jours pour justement atteindre ce degré. Et c'est pour ça que cette Torah s'appelle Torah de Moshe.
Ouais.
Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous voulons recevoir, pas qu'on nous donne, que nous voulons recevoir la Torah, il faut être poisson. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Pas quand est-ce qu'on nous l'a donnée. Hadar. Quel est le signe de Hadar? Le poisson. Alors qu'on nous a donné la Torah, on nous a donné, on l'a pas reçu, on nous a donné. Quel signe astrologique? Gémeaux. En hébreu, jumeaux. Je sais pas d'où ça sort gémeaux, mais bon. Jumeaux, théomim. Ça veut dire Dieu veut que l'humain soit son théom, son jumeau. Il y a un jumelage entre le ciel et la terre. Mais l'homme a du mal à faire cela. Ça lui prend 1000 ans. Jusqu'au moment où il devient poisson, c'est-à-dire Hadar. Au moment où il devient Hadar, eh bien, le Aleph du divin vient habiter dans notre monde. Il a trouvé une dira. C'est ça le mois de Hadar. Donc le mois de Hadar, nous fêtons quoi en réalité? La réception de la Torah. Alors qu'à Shavuot, nous fêtons quoi? Le don de la Torah. Pas pareil. D'accord? Betorat Moshe, ou Bemishkan Ashayachlo, Pona Torah et la Adam Aideali, Kefu Shehu Beshorsho, Zoï Komata Segula. Comment est-ce qu'on appelle l'étage de Moshe, le Noun, la Neshama? La Segula. Qu'est-ce que c'est la Segula? Traduction simple, notre capacité première. C'est-à-dire, nous sommes capables de. Voilà ce que vous êtes capable de vivre, voilà ce que vous êtes capable de faire. Ça, c'est le Noun. Moralité, nous sommes tous des Noun qui s'ignorent. C'est en réalité notre capacité. Nous l'avons tous à l'intérieur, puisque nous avons une Neshama. Et Neshama, c'est Noun Shama. C'est ça le mot Neshama. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Noun. On appelle ça dans un autre langage le Olam Haba. Qu'est-ce que c'est le Olam Haba? C'est justement ce degré de la Neshama, le degré potentiel, le degré idéal de l'homme tel que Dieu l'a pensé. On peut l'appeler aussi Léa. Léa. Alors que le corps va s'appeler Rachel. Donc s'appelle aussi Léa. Et dans la Kabbalah, ça équivaut aux deux premières lettres du nom d'Hachem, le Yud et le He. Vous êtes avec moi? Le Yud et le He correspondent à la Chokhmah et à la Bina. Or, la Neshama, elle vient de ce monde-là qui s'appelle Bina. Donc, moralité, les deux premières lettres, c'est la Torah de Moshe. Et nous voulons que ces deux premières lettres deviennent aussi Vav et He. Un Vav et un He. Je mets en H. Donc quand on dit un Kaddish, qu'est-ce qu'on dit? Itgadal ve itgadash emme. Rabba. Traduction. Que le nom de Yud et de He grandit, c'est qu'il devienne Rabba, grand. C'est-à-dire qu'il devienne Yud, Ke, Vav, Ke. C'est ça qu'on dit au Kaddish. On parle pas des morts. Et pourquoi on dit ça justement au moment du décès, Chas v'Shalom, de l'endeuillé? Parce que justement, il y a une Neshama qui a quitté ce monde. Donc il y a un vide maintenant dans ce monde. Il y a un acteur en moins qui a disparu. Donc ça s'appelle vider Dieu de ce monde. Car je dis tout à l'heure que nous étions les porte-paroles. Donc s'il manque un Chas v'Shalom entre nous, que se passe-t-il? Dieu a été troué. Ça s'appelle Chiloul Hashem. On a profané le nom d'Hashem, c'est-à-dire il y a un manque. Donc qu'est-ce que je dois faire? Remplacer. Ça s'appelle Kiddush Hashem. C'est pour ça que ça s'appelle le Kaddish. Le Kaddish, c'est un Kiddush Hashem qui vient réparer le Chiloul Hashem. Donc quand je dis un Kaddish, qu'est-ce que je fais? Je fais redescendre une Neshama, une forme de lumière qui va remplacer celle qui est partie. Pour ne pas que ce monde soit vide, Chas v'Shalom. Ça, c'était le premier degré. Le Oumad. בתורתו של אהרון ובמשכן המתאים לתכונותיו, dans le deuxième temple, c'est-à-dire dans la deuxième forme du temple, celle de Aaron, et la Torah qui correspond à Aaron, Pona Torah el Adam Hamatsui. En hébreu, il y a Ratsui et Matsui. Quelle est la différence? Le Ratsui, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait au départ, qu'il veut toujours, mais le Matsui, comme on dit en hébreu, Zemayesh. Bien? Donc, il y a un décalage entre le Ratsui et le Matsui. Donc, le temple de Aharon s'adresse à l'homme avec quoi? Avec toutes ses faiblesses. Alors que le temple de Moshe s'adressait à l'homme sans aucune faiblesse. L'homme idéal. Vezoi komata bechira. Comment je vais appeler l'étage 2? L'étage qui correspond à Aaron? Bechira. Le choix. Le premier temple, je l'ai appelé Segula, ma capacité. Le deuxième temple, je vais appeler le choix. C'est-à-dire que quoi? Que ma capacité que j'ai appelée Segula ne se dévoile que lorsque je choisis de la dévoiler. Vous êtes avec moi? J'ai une capacité. Mais rien de cette capacité va se révéler dans le monde, sauf ce que j'ai choisi de révéler. Ceci n'est pas vrai chez les animaux. La capacité d'un chat n'a pas besoin de son choix. C'est instinctif, ça marche. C'est-à-dire que ses instincts sont actionnés naturellement. Moi, non. Si je n'active pas ma ségoula, ma capacité, elle peut rester en prison toute sa vie. Donc tu peux naître Israël, faisant partie du peuple d'Israël, et ne jamais vivre Israël, dans rien. Et c'est ton choix. C'est ce qu'on appelle la Bechira. Donc vous avez une coma qui s'appelle ségoula, et un deuxième étage en bas qui s'appelle Bechira. Et tout dépend de votre Bechira pour dévoiler des parcelles de votre Ségoula. C'est clair ce que je suis en train de raconter? Ok. Bamishkan Hazé, donc dans ce deuxième temple qui correspond à Aharon, Lokachat HaTorah Becheshbon et Trulshotav Shel HaAdam. La Torah prend en compte les faiblesses de l'homme. Vet Kol Nefilotav HaEfshariot. Et toutes ses chutes éventuelles. C'est-à-dire la Torah sait que l'homme est faible. Et que dans ce monde, pour que la Neshama se dévoile pleinement dans son corps, ça va être difficile. Donc il faut quelque chose qui puisse l'aider aussi. Mishkanon shel Aaron, donc le deuxième temple, la deuxième forme du temple, celle de Aaron. Ou a Mishkan shel Mata. C'est ce qu'on appelle le temple d'en bas. Comme le corps. Amakbil la Metsiut HaKayemet, qui correspond à l'existence telle que nous la voyons, telle que nous la palpons. Bibchinat Rachel. Et donc ça devient Rachel. Pourquoi c'est Rachel? Parce que la Torah, lorsqu'elle parle de Rachel, de quoi elle parle? De sa beauté. Ve Rachel aita yefat to'ar ve yefat mar'e. On dit qu'elle était belle d'aspect, belle à voir. Alors que chez Léa, Ve'enei Léa rakot. On ne voit que ses yeux. Autrement dit, Léa correspond à un monde qu'on n'arrive pas à toucher, qu'on n'arrive même pas à voir. C'est au niveau des yeux. Les yeux, c'est la sagesse. Alors que Rachel est belle. Donc, il y a ici une correspondance. Le temple du corps, c'est celui de Aharon. D'ailleurs, Aharon est beau. Aharon doit être beau. Les Kohanim doivent être représentants du peuple d'Israël. Il faut qu'ils soient grands de taille. Il faut qu'ils soient des beaux vêtements. Parce qu'ils représentent l'infini. Mon cher Rabbeinu, on n'a jamais dit à mon cher, habille-toi comme ça ou comme ça. Mon cher Rabbeinu, il peut rentrer avec une djellaba ou un jean au Beit HaMikdash. Incroyable, il n'a pas besoin de vêtements spéciaux. Alors que Aaron, s'il ne rentre pas avec les vêtements que la Torah lui dit, il est chayav mita. Parce que le travail ne peut pas se faire. C'est très grave. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous raconter? Maintenant, pourquoi j'ai besoin de me dire qu'il y a un temple qui est tellement haut alors que notre vie, elle est tellement basse? Donne-moi le temple de Aharon et laisse-moi tranquille. Nous savons tous qu'on n'arrive pas. Alors quoi? La réponse est simple. S'il n'y avait pas le temple de Moshe comme référence de ce à quoi l'homme doit arriver dans sa vie, eh bien, chas v'shalom, l'homme tomberait sans arrêt, sans aucun espoir de corriger quoi que ce soit. Que fait la Torah? Elle lui dit, écoute-moi, tu as un barème. Ce barème, c'est Moshe Rabbeinu. C'est un temple de l'idéal. C'est un temple magnifique. C'est là-bas que tu dois arriver un jour. Je sais que tu es faible. Alors je vais te donner une forme humaine qui correspond à tes faiblesses. Et quand tu vas fauter, cette forme humaine qui s'appelle Aaron, tu sais quoi, elle va venir fauter avec toi. D'ailleurs, la faute du veau d'or, qui l'a faite? Aaron. C'est-à-dire, quand le peuple d'Israël tombe, il y a une forme qui tombe avec lui, qui l'accompagne dans sa faute. C'est extraordinaire ce que la Torah nous enseigne ici. Et pourquoi Aaron doit m'accompagner dans la faute pour que je garde espoir de me corriger un jour? Gardez la référence de base, Moshe. D'ailleurs, le dernier des prophètes, comment il s'appelle? Malachi. Dans Malachi, il est écrit Zichru Torat Moshe Abdi. Rappelez-vous de la Torah de Moshe. Pourquoi c'est le dernier prophète qui dit ça? Parce qu'après le dernier prophète, il n'y a plus de prophète. Donc le dernier prophète nous dit, si vous voulez garder une référence, rappelez-vous de la Torah de Moshe. Parce que la Torah de Aaron, vous y êtes toute la journée. Nous sommes tous dans le temple de Aaron. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans le temple de Aaron qu'il n'y a pas dans le temple de Moshe? Dans la paracha de Terouma, le temple de Moshe, on n'a pas mentionné certaines choses. Alors que dans la paracha de Tetzaveh qu'on vient de lire Shabbat, on a mentionné des choses qu'on n'avait pas mentionnées avant. Quoi? Tous les éléments qui servent à réparer les fautes. Les vêtements des Kohanim. À quoi servent les vêtements des Kohanim? À réparer. Chaque vêtement corrige une faute. Pourquoi ces vêtements ne sont pas mentionnés dans le temple de Moshe? Parce qu'il n'y a pas de faute. Extraordinaire. C'est pas deux temples, c'est deux niveaux dans un seul temple. Ben parce que c'est comme ça que la Torah nous le présente. La Torah nous présente Moshe comme un élément qui est hors nature. Moshe n'arrive même pas à descendre dans ce monde. La semaine prochaine, on va demander à Moshe de faire quelque chose. Il n'est même pas capable de le traduire dans ce monde.
Le temple de Moshe, c'est parfois comme...
L'esprit. La Neshama. Parashat Terouma. Toute la parashat de Terouma, c'est un temple idéal. Il n'y a pas marqué de faute. Qui va donner l'argent pour construire le temple de Moshe? Non. Seulement ceux qui veulent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce degré-là de Moshe, ça part du cœur. Alors que Tetzaveh, qu'est-ce que ça veut dire? Ordonner. Pourquoi tu es déjà tellement bas qu'il faut t'ordonner à faire les choses? Vous comprenez, c'est énorme la différence entre les deux. Il n'y a pas de misbéar. Pourquoi il n'y a pas de misbéar? Parce qu'il n'y a pas de faute. Donc dans le temple de Moshe, on ne mentionne pas le misbéar. Dans la paracha de Terouma, on ne parle pas du misbéar. On mentionne que le temple. C'est tout. C'est-à-dire, si je devais prendre une pièce essentielle dans le temple de la paracha de Terouma qui correspond à Moshe, quelle est la pièce principale? Qui a fait le code de Shakodashim? Pourquoi? Parce que mon but dans le temple de Moshe, c'est d'être collé à Dieu, c'est tout. J'ai rien besoin d'autre. Alors que dans le temple de Aaron, dans la paracha de Tetzaveh, quel est le degré le plus important? Le Mizbéach. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me guérit de toutes mes fautes. Des korbanot. Parce que qu'est-ce que c'est korban? Sous-entendu, itrachakta, titkarev. Korban veut dire approche-toi. Tu t'es éloigné. Dans le korban, dans le paracha de Moshe Rabbeinu, ou dans le temple de Moshe, il n'y a pas de korbanot parce qu'il n'y a pas de titrachakout. Il n'y a pas d'éloignement. Donc tu n'as pas besoin de te rapprocher, tu es déjà lié. C'est énorme, c'est énorme. Traduisez tout ce qu'on vient de dire à votre corps. Le Ramban dit à son fils, le temple c'est l'homme. Vous avez un degré, quittez le temple, ça va vous être plus facile maintenant. Concentrez-vous sur vous-même maintenant. Vous avez un temple qui est idéal, c'est Moshe. C'est votre Neshama. C'est votre temple idéal. C'est comme ça que Dieu vous veut. Et après, il y a le temple Boal Sara. Le deuxième, c'est-à-dire le temple du corps. Aujourd'hui, quand vous ouvrez un magazine, c'est le temple du corps, non? Des crèmes, des pommades, des parfums, des... Bon, ben, il n'y a rien d'autre pour la Neshama, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le monde dans lequel on vit, il donne la place à qui? Au corps. C'est un monde corporel. La Neshama, le Khaïba, elle est dans un autre degré. Qui fait attention à cette Neshama? Très peu d'entre nous. Alors, me diriez-vous, j'ai besoin que de l'une, pas de l'autre? Non. Sinon, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas créé des corps. Il veut que les corps soient au degré de la Neshama, que la terre soit au degré du ciel. Encore et encore. Ce n'est que le début. D'accord, d'accord. Mais c'est ça notre travail. La sot mina aret shamaim. De faire de la terre un ciel.
Vous parlez souvent de la dimension triangulaire.
Nakhon.
On voit que là vous parlez de deux degrés. Moshe et
Aaron. Nakhon.
Il y a une sœur qui est Myriam.
Nakhon.
Et elle, qu'est-ce qu'elle apporte au dévoilement?
C'est le degré, on va dire, du troisième temple. Même les deux temples que nous avions, c'est en réalité deux degrés qui représentent ces deux degrés qu'on vient de voir. Le troisième temple, c'est un élément qui est un autre degré. Autre chose. Et il est de l'ordre de Tiferet, de l'équilibre parfait. C'est pour ça qu'on appelle Baït. Et on a perdu notre équilibre. C'est pour ça qu'on n'a pas encore le troisième temple. Vous croyez qu'il s'agit de prendre un câblin et de commencer à construire? C'est pas ça. Il suffit de prendre conscience de ce qui nous manque pour commencer à étudier. C'est ce que nous essayons de faire pendant les cours. Aujourd'hui, on est en train de revenir à Tiferet. Vous savez qu'au niveau des cellules humaines, aujourd'hui de l'ADN humain, l'ADN humain, aujourd'hui physiquement, physiologiquement, est en train de changer. Vous savez ça ou pas? C'est énorme ce qui est en train de se passer. Vous savez que l'ADN humain, c'est comme une échelle qui relie deux traits. Aujourd'hui, on n'est plus au niveau des deux traits, on est au niveau de la barre qui relie les deux. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, c'est énorme. Au niveau médical, nous sommes en train de muter. Il y a une mutation de l'ADN humain. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, les kabbalistes appellent cette mutation Tiferet. Donc on est en train de rentrer dans le Tiferet du monde. C'est pas par hasard, nous sommes dans le sixième millénaire, c'est Tiferet. Je vais juste vous rappelez, vous comprenez que le temps est déjà terminé. Dans la Haggadah de Pessah, nous avons une référence à ces deux temples. Ilu bala lanu et bet amigdash, tayenu. Ve ilu bana lanu et bet abechira lechaper al avonotenu, tayenu. Incroyable! Le premier tayenu, s'il nous avait construit le premier bet amigdash, tayenu. Le deuxième, comment ça s'appelle? Beta Bechira. Incroyable, la maison du choix. Les chapères à la volonté nous pour réparer nos fautes, c'est-à-dire, au cas où tu tombes, il y a un rattrapage. Magnifique, la Agada de Pessah. Nous, on répète. Da, yenoa, écart de santé. C'est Aaron et Moshe, c'est Moshe et Aaron. C'est énorme. C'est pas d'ailleurs, c'est important. Mais plus important de chanter, de comprendre, qu'on chante. Un jour, il y avait aux États-Unis, une histoire vraie. Aux États-Unis, à la fin de Pessah, une famille américaine, avec le rabbi et la rabbinite. Et ils chantent à la fin. Les Shana Haba Birushalayim. Et la rabbinite se met à pleurer. Et le rav dit à la rabbinite, Hani, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, non, mais j'ai pas envie, moi, de partir Shana Haba Birushalayim. Je suis bien à New York. Qu'est-ce qu'il lui dit le mari? It's just a song. Vous avez compris? On n'est pas là pour chanter. Si tu chantes et tu veux pas ce que tu es en train de chanter, de quoi tu parles? C'est très triste cette histoire. C'est à pleurer cette histoire. C'est à pleurer cette histoire. C'est une vraie histoire. Je termine. C'est comme ça que nous avons lu la Haftara de ce Shabbat. La Haftara de ce Shabbat parlait de quoi? Non, elle parle de Yeheskel, c'est lui qui parle. On dirait que c'est notre copain, Yeheskel. De quoi elle parle? Du troisième temple. Des mesures du troisième temple. Mais personne ne fait attention, comme d'habitude. Haftara, déjà qu'on a lu la paracha, il faut exagérer quand même. Hein? Ça suffit, quoi. Eh bien, dans la Haftara, il y a le troisième temple. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Regardez, c'est le dernier paragraphe du cours. Lisez-le. Ata ben Adam, toi fils de l'homme, aged et bet Israël et tabaï. Dis aux enfants d'Israël la construction du troisième temple. Veikalmu me'avonotehem, et qu'ils aient honte de leurs fautes. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Non, vous êtes trop religieux. C'est parce que je vous donne les mesures du temple que vous pouvez faire tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Que grâce au temple qui soit la référence, vous allez voir combien vous êtes loin de vous-même. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, par rapport au Beth Amikdash, vous allez sentir combien vous êtes minable ou combien vous êtes bien. C'est ça le inyan du Beth Amikdash. Pourquoi j'ai besoin d'une construction? Parce que quand je vais voir cette construction, quand je roule en voiture, et je vois le troisième Beth Amikdash, au lieu de voir cette klipat hasela. Klipat hasela, medayek. Eh bien, je me dis, Yoel, tu es sûr que tu es vraiment correct dans ce que tu es en train de faire. Regarde, il y a le Beth Amikdash. Fais attention, tu as une référence. Tu peux plus maintenant sortir. Aujourd'hui, on voit pas, alors on se dit, bon, c'est loin, Kadosh Baruch Hu, ça va, de temps en temps, je rentre à la synagogue, je sors, qui me voit pas, tranquille. Mais quand j'ai une référence en face des yeux, je suis tout le temps en train de me référer. Je suis tout le temps en train de me mesurer. Regardez le mot. Oumadedou et tornit. C'est-à-dire, ils vont pouvoir se mesurer par rapport à ce temple. C'est énorme. Ça, c'est l'essence même du Beth Amikdash. Ça, c'est l'essence de la Torah. C'est de se mesurer face à cette grande lumière. Il a fait. Aujourd'hui, ce qui remplace, c'est la maison. Et c'est notre neshama, notre mishka, notre cerveau, notre façon de vivre, de respirer, de manger. tout ce qu'on fait à la maison, c'est en réalité une suite du Beth Amikdash. La table que vous avez à la maison, d'où elle vient? De la table de là-bas. La Torah que vous avez à la maison, elle vient d'où? Des chérubins qu'il y avait là-bas. La menorah qui vient à la maison, c'est la lumière que votre mari apporte à la maison. Mais c'est plus dur. C'est plus dur parce que c'est beaucoup plus virtuel. Et c'est pour ça que quand une femme, par exemple, Chas Veshalom est sota, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène au Beth Amikdash. Pourquoi il faut l'amener là-bas? Pour qu'elle se mesure à combien elle est partie de l'essence. Mais la femme, c'est pas seulement la femme, c'est chacun de nous. Et il faut réellement se prendre au sérieux et commencer à réfléchir BMS à combien de distance je suis de la référence divine. Toda Rabba. Okay. Je l'ai marqué. Léa, Varké. Rachel, Varké.
La table, elle a une importance.
D'accord.